Processus d'ego conscient, seconde partie. Quels sont les bénéfices d'un processus d'ego conscient? Premier point, il nous permet de gérer nos copersonnalités au lieu de réagir. Lorsque nous devenons conscients de la façon dont notre système primaire nous limite, et lorsque nous reconnaissons que toute copersonnalité non équilibrée par un de ses opposés a dans notre vie au moins un effet indésirable, un piège, nous acceptons la présence des copersonnalités opposées à notre système primaire. Nous apprenons alors à utiliser nos copersonnalités plutôt qu'à nous laisser utiliser par elles. Nous devenons capables de les canaliser, d'en modifier l'intensité et de rester en lien avec leurs opposés. Nous commençons à gérer notre vie au lieu de réagir à tout ce qui vient à nous ou à tout ce qu'on nous dit. Nous sommes à même d'adapter nos choix à notre environnement et à nos buts. En bref, nous sortons de l'ego fonctionnel automatique. Un autre avantage de ce processus est le fait qu'être sous la tutelle d'une partie primaire est comme une sorte d'appel irrésistible. Nous en avons déjà parlé, notre partie renier va se manifester à l'extérieur, nous allons l'épouser et ou la combattre jusqu'à ce que nous nous décalions de cette partie primaire et acceptons de donner une place, même minime, à cet opposé. C'est cependant un long chemin. Un tel processus nous demande de devenir conscient de la vulnérabilité qui a conduit au développement de notre système primaire. C'est la reconnaissance du vécu de l'enfant et la levée, au moins partielle, des amnésies traumatiques qui vont nous permettre de rassurer cet enfant de façon consciente et de nous séparer du système primaire mis en place pour le protéger. Second point, un processus d'ego conscient nous amène à prendre en considération aussi bien nos forces que notre vulnérabilité. Toute copersonnalité primaire protège une certaine vulnérabilité. Cela peut être le besoin de réussite ou celui d'être aimé, par exemple. Et leurs opposés aimeraient prendre soin d'une autre sorte de vulnérabilité. Par exemple, les besoins du corps, celui d'être posé, ou au contraire, le besoin de mouvement, ou encore celui de faire ce que nous aimons. Écoutons par exemple l'actif et l'enfant. L'actif. Allez, encore un effort et nous allons terminer. L'enfant. Nous sommes assis devant cet ordinateur depuis plus de 5 heures. J'ai faim, j'ai soif, je veux bouger. Nous pouvons entendre aussi le fêtard et le sérieux. Le fêtard. Allons faire la fête ce soir. Le sérieux. Attends, tu as une journée chargée demain. Es-tu sûr que ce soit la bonne chose à faire? Nous pouvons avoir l'aventurier et le prudent. L'aventurier. Vas-y, c'est génial, tu seras trop fier de toi si tu le fais. Le prudent. Attends, réfléchis, c'est dangereux. Lorsqu'une partie primaire aventurière mène le jeu, il peut exister de l'autre côté un enfant terrifié qui va trembler de peur 20 minutes durant lorsqu'il émerge dans une séance de voice dialogue ou dans une situation où il va brusquement submerger la personne. Lorsqu'une partie spirituelle mène le jeu, elle peut vouloir suivre le chemin qu'elle ressent comme important pour son développement spirituel et ignorer la vulnérabilité des parties qui se soucient de leurs proches et de la vie quotidienne. Les parties qui veulent suivre leur chemin n'ont souvent en vue que leurs propres buts et propres besoins, tandis que celles qui ignorent le besoin de réalisation personnelle ont au contraire le regard fixé sur les buts et besoins des autres. Chacune protège une vulnérabilité particulière. Troisième point, sortir des relations difficiles ou conflictuelles. Lorsque nous sommes identifiés à une partie primaire ou à un système primaire, nous entrons en conflit avec les personnes ayant un système primaire opposé, ou nous entretenons avec elles une relation qui va finir par se scléroser et souvent mal se terminer. Si je suis, par exemple, dans ma mère puissante, je vais accrocher tous les fils et filles en demande qui ont besoin de recevoir ce que cette mère a à donner et qui deviendront, à un moment ou un autre, des rebelles face à cette mère naturellement autoritaire. Cette mère puissante, ainsi, peut devenir une victime. Si je deviens consciente de cette copersonnalité, j'ai la possibilité de nouer une relation autre que celle de parents-fils-filles avec tous ceux qui m'entourent. Je les vois davantage comme des adultes pouvant prendre soin d'eux et je deviens davantage consciente de mes propres besoins. Quel que soit notre partie primaire, s'en séparer nous permet de résoudre beaucoup plus facilement les inévitables difficultés qui arrivent dans toute relation. Cela n'est pas possible lorsque chacun campe dans une partie primaire opposée. Point 4. Prendre des décisions sans retour de manivelle. Lorsqu'une copersonnalité prend une décision, il existe inévitablement un retour de bâton. Lorsque nous prenons une décision, après avoir dialogué avec les copersonnalités opposées intéressées par les effets de cette décision, et pris en compte la vulnérabilité de chacune, c'est-à-dire lorsque nous avons pris le temps de mettre en route un certain processus d'ego conscient, nous avons davantage de chances que cette décision ne soit pas catastrophique et ou de ne pas être attaquée par notre critique si au final elle s'avère pas si bonne que ça. Voici ce que nous dit Hal Stone sur ce sujet. Si je suis dans mon père responsable, lorsque quelqu'un me demande de faire quelque chose, le père responsable répond oui automatiquement. Mais de l'autre côté, se tient celui qui aime ne pas être dérangé, faire ce qui lui convient, jouer sur son ordinateur, se faire plaisir, regarder des vidéos. Lorsque je suis capable d'incarner et de valoriser ces deux opposés, un processus d'ego conscient est présent. Embrasser ses opposés a quelque chose à voir avec apprendre à transpirer. Sidra, qui m'est très opposé sur ce point, préfère l'image du colibri qui reste sur place en battant des ailes incroyablement vite. Une grande force et une grande tension existent dans cette manière de rester immobile. Nombre de systèmes primaires sont le résultat de la façon de vivre dans la société occidentale. Il existe une sorte de mentalité de cow-boy à prendre des décisions rapides, à faire les choses rapidement. Une sorte de psychologie genre « qui peut tirer le premier ?»« conduire le plus vite ?»« décider le plus vite ?»« travailler le plus rapidement ?» etc. Un processus d'ego conscient est totalement différent. Parfois, nous devons agir et il n'existe pas de temps pour embrasser les opposés. C'est vrai, mais beaucoup moins souvent que nous ne le pensons. Une fois qu'un processus d'ego conscient prend place, nous commençons à embrasser les différentes copersonnalités opposées et nous ne faisons plus les choses aussi rapidement. Les décisions se prennent d'une façon différente. Lorsque nous devenons capables de transpirer entre des parties contradictoires ou de tenir les tensions entre des opposés, comme le fait un oiseau-mouche, alors quelque chose vient de l'intérieur, qui ne semble même plus être une décision. Cela ressemble à un savoir. Lorsque ce savoir vient, il nous mène au-delà des opposés. Ce n'est plus le savoir qui vient seulement d'un choc ou d'une intuition, c'est quelque chose qui prend en considération à la fois l'intuition ou ce qui est révélé par le choc et l'opposé, la voie de la raison. Sidra, Je me souviens combien cela a été difficile pour moi. Ma partie dominante était très fière de dire « J'aime prendre des décisions immédiates. Si ce n'est pas la bonne, je la changerai après coup. L'important est de prendre une décision et vite. » Ce fut difficile pour moi de me séparer de cette façon de faire et de tenir cette tension entre les opposés. Hal, je m'en souviens. J'ai réellement apprécié que tu apprennes à le faire. C'était nécessaire pour moi que tu puisses m'écouter dans cette façon de prendre les décisions. Agir de cette façon était essentiel pour moi. Sidra, ce qui a été bien, c'est que tu as changé également. Tu as appris à prendre des décisions un peu plus rapidement. Tu as cessé de transpirer des heures durant. Hal, oui, c'est vrai, j'étais un peu trop de l'autre côté. Je freinais trop. Fin de citation. Chercher la voie opposée lorsqu'il y a un énorme désir d'agir d'une certaine façon, chercher la voie qui dit non, qui dit « c'est de la folie, voilà ce qui peut arriver », chercher le porte-parole des côtés opposés à notre système primaire nous donne le pouvoir d'éviter bien des écueils. Point 5. Être beaucoup moins déstabilisé par notre critique ou les critiques des autres. C'est un autre grand bénéfice du processus d'ego conscient. Il nous permet d'être beaucoup plus stable dans notre vie quotidienne, de ne pas nous laisser déstabiliser aisément. Et je vais vous donner un autre exemple raconté par Hal. Hal, j'ai un bon exemple à ce sujet. Voici quelques années, j'ai décidé de porter une boucle d'oreille. Sidra me le demandait depuis plusieurs années et lorsque j'ai eu 65 ans, j'ai décidé de me faire percer l'oreille et de porter un bijou. Le problème était que mon patriarche, qui est plutôt conservateur, était totalement désespéré à cette idée. Disons qu'il détestait cette idée. Il ne pouvait pas la tolérer. Je devais aller contre sa volonté et lui faire savoir que j'allais le faire. L'autre côté disait « Eh, tu sais, ce n'est pas si inhabituel de nos jours. » Je bataillais donc avec ces deux opposés tous les jours. Avec les gens que je connaissais personnellement, cela ne posait pas vraiment de problème. Mais avec ceux qui venaient me voir professionnellement, il y avait toujours un problème. Ils me posaient des questions sur cette boucle d'oreille et discutaient mes réponses. Finalement, j'ai trouvé un compromis. J'ai décidé de porter cette boucle d'oreille lorsque j'étais avec ma famille et mes amis et de ne pas la porter lorsque je travaillais avec mes clients. Puis un jour, bien sûr, j'ai oublié de l'enlever lors d'un stage. C'était la première séance du matin. J'étais assis face à un homme pour une séance de voice dialogue, tandis qu'un petit groupe nous observait. Cet homme me regardait. Il était tout à fait évident qu'il regardait ce bijou que j'avais à l'oreille. Il me dit qu'il aimait mon travail, qu'il aimait mes livres, qu'il pensait que tout cela était très créatif, mais ce bijou à l'oreille, c'était la pire chose qu'il puisse imaginer. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je le portais. Bref, il déversa un grand nombre de jugements très lourds sur les hommes qui portent des boucles d'oreilles. Ma réaction fut de rire. J'ai vraiment ri aux éclats. Aucune déstabilisation n'était possible. Je n'avais pas besoin de lui pour entendre tout ça. J'avais écouté mon patriarche intérieur et mon homme traditionnel me dire durant presque un an d'enlever cette boucle d'oreille, protester qu'il ne pouvait ni la tolérer, ni comprendre mon désir de la porter. Mon patriarche m'avait déjà dit tout ce que cet homme me disait. Je n'avais pas mis mon patriarche à la porte, je me tenais entre lui et son opposé. J'avais déjà un bras autour de lui. Je ne pouvais pas être déstabilisée par l'attaque de cette même énergie chez cet homme. Lorsque vous avez ainsi un centre de gravité très bas, vous ne pouvez pas être déstabilisée. C'est le cadeau du fait de se tenir entre les opposés. Vous ne pouvez pas être terrassé par les jugements, que ceux-ci viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Il existe une proportion exactement inverse entre notre processus d'ego conscient et la taille de notre critique intérieure. Plus ce processus est développé, moins le critique intérieur l'est. Moins ce processus est développé, plus le critique intérieur l'est. Si par miracle j'ai 100% de processus d'ego conscient par rapport à une polarité, le critique intérieur n'a plus de pouvoir. Dans ce cas, avec cette boucle d'oreille, le processus d'ego conscient avait été fait à 100%. Le critique intérieur ne pouvait même plus être présent pour dire « Tu vois, je te l'avais bien dit ». Fin de citation. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Hall eut partagé sa réaction avec ce client et lui ait parlé de son propre conflit et de la façon dont il l'avait résolu, cet homme lui confia qu'il avait eu également le désir de se faire percer l'oreille, mais n'avait jamais pu franchir le pas. Hall n'était pas devenu sa victime, il ne l'avait pas non plus attaqué, et cet homme avait pu reconnaître son propre désir de porter un anneau à l'oreille et commencer à gérer son conflit intérieur. C'est le pouvoir d'induction de la conscience. Un processus d'ego conscient se transmet par induction. Point 6. Une nouvelle définition de la liberté. Une certaine idée de la liberté serait de faire ce que l'on veut, de ne jamais se sentir restreint et de se séparer des parties de nous qui nous empêchent de faire ce que nous voulons. Cette idée de la liberté est très répandue et a des conséquences majeures. Nous allons toujours repousser les limites pour faire ce que nous voulons et cela va nous amener à rejeter certaines parties de nous et certaines parties de la société qui sont plus concernées par un certain conservatisme, une nécessité de se restreindre, de se contenir, d'obéir à des règles pour pouvoir vivre ensemble. Ces copersonnalités ne sont pas du tout intéressées par faire ce que nous voulons. Elles sont intéressées par faire ce qui est juste, par le devoir, par faire ce qui est adapté à la situation. Lorsque nous nous identifions à la voie de la liberté, telle qu'elle est définie ci-dessus, nous nourrissons dans le monde la voie du fondamentalisme et nous rejetons notre propre fondamentaliste. Chacun d'entre nous a en lui un fondamentaliste avec toutes les idées propres à cette copersonnalité. Lorsque nous le rejetons et nous identifions à l'autre côté, nous nourrissons dans le monde ce très large et très puissant mouvement fondamentaliste. Pour nous, la liberté nous vient de cette possibilité de nous tenir entre les opposés et d'accepter de ressentir la façon d'être et de penser de ces opposés. De ressentir en nous ces parties conservatrices, ces parties concernées par l'efficacité, celles qui ne veulent pas de la liberté, qui ne veulent pas de l'expansion, voire qui ne veulent pas de la conscience. Ces parties existent. Certaines sont même très drôles et très cool. Nous avons en nous certaines copersonnalités qui ne veulent pas devenir conscientes et nous en avons d'autres qui veulent le devenir toujours plus. Ce sont des parties très profondément opposées. Pour nous, la réelle liberté vient lorsque nous pouvons embrasser d'un côté le libre penseur, le spirituel et son amour du lâcher-prise, ce mouvement vers l'inconnu, et de l'autre, celui qui veut la contraction, qui aime les idées conservatrices, le fondamentaliste intérieur, etc. Cette nouvelle liberté n'est pas régie par des règles. Elle n'est pas automatique. Elle ne consiste pas dans le fait de s'exprimer à tout prix. Elle implique une liberté de choix avec un niveau d'éthique et de responsabilité nouveau. Nous suivons nos règles intérieures et notre sentiment intérieur de ce qui est juste ou non, et nous ne rejetons pas systématiquement la façon d'être et de penser des personnes intérieures ou extérieures plus attachées aux traditions. Nos décisions viennent d'un sentiment intérieur très clair qui ne rejette pas les opposés, qui les considère et en tient compte. La liberté de se tenir entre les opposés nous donne une grande force. Point 7. Je n'ai pas raison, mais je n'ai pas tort non plus. Lorsque nous sommes dans notre système primaire, nous savons que nous avons raison. Et en fait, bien sûr, nous avons uniquement raison contre le système primaire d'une ou de plusieurs autres personnes qui savent, elles aussi, qu'elles ont raison. Lorsque nous avons développé un processus d'égo-conscience suffisant pour ne plus être identifiés à ce qui constituait notre système primaire, le problème d'avoir raison ou non commence à évoluer. Nous sommes moins certains d'avoir raison et nous savons aussi que nous n'avons pas tort. C'est le paradoxe. Ce sont simplement les opinions de copersonnalités différentes ou opposées. Une des conséquences du fait de pouvoir se tenir entre les opposés, jusqu'à ce que nos propres réactions se stabilisent, est qu'il ne s'agit plus d'avoir raison ou tort. C'est simplement ce que nous pensons en ce moment. Cela pourra changer si notre processus de conscience change, et nous donnons à l'autre le droit d'incarner un processus différent. Cela nous éloigne de ce point où nous avons toutes les réponses. Dans le même temps, nous sommes beaucoup plus confortables avec ce que nous sommes, qui nous sommes et où nous en sommes. Accepter de ne pas avoir raison devient possible, comme nous l'avons souligné plus haut, lorsque nous connaissons les peurs et les terreurs de nos enfants intérieurs et celles de notre système primaire. Lorsque nous pouvons en prendre soin sans avoir besoin de changer l'autre. Autrement, ces peurs inconscientes nous font basculer dans le passé. Nous revivons le passé et nous devons changer l'autre, avoir raison, pour que ce passé ne nous submerge pas. Point 8. Un processus d'égo-conscient nous permet de contrôler notre champ énergétique et d'ajuster notre énergie. Cela nous amène à gérer notre champ énergétique. Prendre conscience de ce champ électromagnétique qui enveloppe notre corps physique est la première étape. Nous pouvons apprendre ensuite à l'étendre, à le renforcer, à en envelopper les autres, ou au contraire, à le fermer, à repousser et maintenir à l'extérieur les énergies que nous jugeons indésirables. Nous pouvons maintenir, même à distance, un lien énergétique avec une personne ou un groupe, et nous pouvons, en présentiel, ajuster notre champ au leur. En tant que thérapeute, c'est très important. Les personnes que nous accompagnerons se sentiront beaucoup plus à l'aise si nous ajustons notre champ au leur. Lorsqu'une personne est personnelle, nous ouvrons notre champ et créons une relation chaleureuse dans laquelle une certaine fusion peut être présente. Nous pouvons aussi diminuer l'intensité de notre champ si c'est nécessaire. Lorsque nous travaillons avec une personne plus impersonnelle, nous ramenons notre champ à nous et veillons à ne pas l'envahir énergétiquement parlant. Nous pouvons aussi amener dans notre champ énergétique une énergie ou une copersonnalité qui convient à une situation. Si nous avons un rendez-vous galant, il peut être juste d'amener notre énergie d'Aphrodite avant de nous y rendre. Cela peut amener un agréable changement dans nos énergies. Si nous allons à un rendez-vous professionnel, il peut être intéressant d'amener juste un petit pourcentage de cette énergie d'Aphrodite et de laisser le reste à l'actif ou à l'impersonnel. Ainsi, nous sommes plus détendus et capables de gérer tout ce qui se présentera. Dans toute relation, il existe une composante énergétique qui est le plus souvent inconsciente. En devenir conscient permet d'apprendre à jouer consciemment de son champ pour qu'il devienne personnel, ouvert, disponible, ou au contraire, plus impersonnel, plus fermé, non dérangeable, selon ce que nous désirons. Lorsque nous développons un processus d'ego conscient, nous devenons conscients non seulement des copersonnalités qui agissent, mais de la manière dont elles influencent notre champ énergétique. Point 9. Gérer les situations indésirables. Lorsque certaines situations sont inconfortables, lorsque certains membres de notre famille sont intrusifs, nous pouvons fermer notre champ énergétique et mettre nos limites. Nous ne sommes plus identifiés au gentil et nous ne sommes pas non plus identifiés à l'agressif. Cela nous met en sécurité. Nous pouvons faire la même chose lors d'avances sexuelles que nous ne désirons pas, lorsque quelqu'un essaie de nous faire sortir de nos gonds ou de nous influencer, ou devient désagréable avec nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur ou de devenir désagréable à notre tour. Nous pouvons simplement diminuer l'intensité du lien et fermer notre champ énergétique. Nous avons ainsi la possibilité de régler des situations conflictuelles en changeant simplement d'énergie, ce qui va, par induction, amener l'autre à en changer également. Nous évitons ainsi la polarisation qui existe dans n'importe quel conflit. Les conflits arrivent lorsque les gens sont identifiés à leurs règles, c'est-à-dire à leur système primaire. La résolution des conflits vient de l'habileté à décrocher les gens de leur système primaire pour qu'ils puissent être l'un avec l'autre d'une façon nouvelle et différente. Ce qui revient à dire que cela nécessite d'induire un certain processus d'ego conscient entre les deux personnes ou les deux groupes et de les amener à prendre conscience de ce qu'ils font non seulement verbalement ou physiquement, mais au niveau de leur champ et du lien énergétique. Point 10. Ce processus d'ego conscient amène à une nouvelle définition de l'intimité. L'intimité ne se résume plus à la fusion avec l'autre. L'énergie personnelle, tout comme l'énergie impersonnelle, ont leur place dans toutes les relations et même leurs avantages, surtout dans la relation de couple. Savoir comment chacun réagit à ces énergies est important. Apprendre à fermer et à ouvrir sa bulle, supporter que l'autre le fasse sans qu'il y ait confusion avec une situation de rejet ou d'abandon, sauve bien des couples. L'intimité ne consiste plus à maintenir son champ énergétique constamment ouvert, mais à avoir le choix entre un champ ouvert ou fermé, sans pour cela rompre le lien énergétique. C'est un soulagement dans la vie de couple, ça l'est également dans notre rôle de parent. L'enfant a besoin d'un lien constant, mais il n'a pas besoin que le parent ait un champ continuellement ouvert. C'est là la différence. Avoir un champ perpétuellement ouvert est épuisant. C'est le problème de bien des pères et des mères. Nous avons besoin de fermer notre champ pour nous ressourcer. La conscience de ce champ énergétique nous permet de garder le lien et pourtant de refermer notre champ lorsque c'est nécessaire. Lorsque le parent peut refermer son champ et garder le lien, l'enfant ne se sent ni abandonné ni rejeté. Mettre des mots sur ces interactions énergétiques aide beaucoup. Nous voici arrivés au bout de ce podcast sur le processus d'ego conscient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et je vais terminer avec deux citations de Sidra, l'une qui date des années 80 et l'autre d'octobre 2023. En bref, développer un processus d'ego conscient nous donne davantage de contrôle sur notre vie et sur nos interactions. Ce n'est pas un contrôle sur l'autre, c'est essentiellement un contrôle de notre champ énergétique. Nous apprenons à jouer avec notre propre instrument plutôt que de tenter de changer l'autre. Et ce faisant, nous pouvons influencer ce qui nous arrive et ce qui se passe dans nos interactions. C'est assez paradoxal, et pourtant, c'est ainsi que cela fonctionne. Et la citation plus récente, dans une lettre de Sidra qui date d'octobre 2023, « Chacun de nous est unique. Il existe quelque chose qui est à nous seuls, et que nous seuls pouvons apporter au monde. En ces temps turbulents, ces temps de défis, il est plus important que jamais de maintenir un sentiment fort de qui nous sommes et de la nature de notre contribution unique. J'espère que notre travail, qui met l'accent sur la conscience de soi, vous aidera à avoir une idée de ce que cela représente pour vous. » Fin de citation. Merci de votre écoute. Ce podcast correspond au numéro 121 des Voz Dialogues de janvier 2024. Je rappelle également que le Voz Dialogue et le développement du processus d'ego conscient ne peut être utilisé que dans le cadre de relations normales. Merci beaucoup. C'était Véronique Brard, enseignante en Voz Dialogue.